Les personnes que j'ai rencontrées, qui sont bien informées sur la crise écologique en cours, crise dont plusieurs aspects ont déjà été abondamment abordés dans ce podcast, toutes ces personnes se demandent ce qui pourrait nous aider à changer de trajectoire. Est-ce qu'il s'agit de changer de modèle économique, de déconstruire notre rapport à la nature et au monde en général, de promouvoir davantage d'égalité, de travailler sur la notion de liberté, de fraternité ou de responsabilité individuelle, de changer les institutions, d'accélérer l'innovation, etc. Jean-Pierre Gou, que je reçois pour la seconde fois dans Sismique, se questionne depuis longtemps sur le pourquoi de la situation actuelle en explorant les mathématiques, la science en général, puisque c'est d'abord un ingénieur qui a notamment travaillé des années dans le secteur énergétique, mais il explore aussi ce qui fait l'histoire du côté des mythes, des croyances, des imaginaires et des émotions. Il vient de publier un nouveau roman pour poursuivre la saga Siècle Bleu, et nous parlons un peu de ce premier tome intitulé Révolution Bleue, la petite princesse. Mais j'ai surtout voulu discuter avec Jean-Pierre de sa recherche continue sur ce qui justement pourrait faire évoluer la société et pourquoi pas même l'humanité de manière positive, on va dire. Je ne sais évidemment pas s'il a trouvé la solution à cette équation si complexe dans laquelle nous sommes pris, lui non plus d'ailleurs, mais comme toujours, c'est d'abord la curiosité qui m'anime et c'est une belle conversation que j'espère vous plaira. Je suis Julien Levorex, Sismique est une enquête sur les grands enjeux et sur les mécaniques de notre époque. Je vous invite comme toujours à faire preuve d'esprit critique, à ne pas forcément prendre tout ce qui est dit pour argent comptant et à creuser par vous-même les sources. Ouvrez les oreilles, suspendez un temps votre jugement, pensez par vous-même, mais aussi contre vous-même, sans vous départir bien sûr de votre esprit critique. Et je vous invite à méditer sur cette phrase de Donella Meadows. La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie. C'est notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. Bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismique.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre.
Salut Jean-Pierre.
Salut Julien.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, bah très bien. On va passer une heure et demie ensemble à parler du monde, comme on aime le faire, à le faire dans ce podcast. T'es déjà venu dans Sismique au tout début, c'était l'épisode 6, donc en 2018, et on avait fait un épisode que j'avais intitulé « Éveiller les consciences », donc tout un programme. On avait parlé d'Overview Effect, on avait parlé du Siècle Bleu, qui était ton premier roman double, et de ta réflexion autour de la polycrise et la crise écologique et de comment travailler en fait à la résoudre. Et tu viens de sortir la suite qui s'appelle Révolution Bleue, la petite princesse, et qui est le premier tome du... Il y en aura combien? Trois?
Ouais, d'une trilogie.
Une trilogie. Et la trilogie, c'est la Révolution Bleue. Et le premier tome, c'est la petite princesse, c'est ça? Ok.
Ouais.
Et donc, j'ai lu, et donc on va parler de ça, évidemment, mais je voudrais surtout qu'on passe beaucoup de temps à parler de ta réflexion sur l'époque, sur les crises actuelles, sur... les pistes que tu entrevois pour les résoudre, puisque c'est ça dont le roman parle, en fait, et c'est ça qui nous préoccupe. Alors, je voudrais commencer par là. Qu'est-ce qui t'occupe et te préoccupe? Et quel est le but de ta démarche d'écrivain, de conférencier aussi, d'éveilleur de conscience plus largement, puisque tu fais d'autres choses qui vont dans ce sens-là? Et voilà, puisque chez toi, c'est assez évident qu'il y a une... grande cohérence et un but en fait depuis assez longtemps. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler de ça? C'est au centre de ta démarche.
Ma démarche, elle démarre en 92 quand il y a eu le sommet de Rio. À l'époque, j'étais en prépa. Je voulais aller vers des études scientifiques, école d'ingénieur, et j'ai été vraiment très marqué par ce sommet. Et j'ai eu l'impression que l'humanité avait compris les grands enjeux entre l'humanité et la biosphère, qu'elle allait les résoudre. Il y avait tous les chefs d'État qui étaient réunis. Et puis, pendant mes études d'ingénieur, j'ai vu que ça serait pas si simple, quoi. Il a fallu 5 ans pour aller organiser le sommet de Kyoto, quoi. Et puis le sommet de Kyoto, il démarrait 13 ans après, et je me suis dit, mais l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une urgence, on n'arrive pas à y aller. Et donc, cette démarche que tu expliques, moi, elle démarre, voilà, au moment de mes études. Moi, j'ai travaillé depuis 30 ans dans le domaine de, on va dire, transition écologique, transition énergétique, d'abord en tant que chercheur en maths pour le ministère de l'énergie américain, puis après, dans diverses entreprises que j'ai montées ou dirigées, avec cette idée de se dire, mais comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème du climat et plus globalement toutes les autres transitions écologiques avec les limites planétaires. Et donc moi, j'ai essayé différentes voies, on va dire la voie de la recherche, la voie d'entrepreneur. Hein, et moi, j'étais directeur général de Power Next, j'ai géré tous les marchés de l'énergie en Europe, donc je connais bien à la fois la logique politique, la logique économique de la transition énergétique. Passé beaucoup de temps dans les différents ministères, on gérait les marchés dans 10 pays, la France, l'Allemagne, tous les renouvelables, etc. Donc j'ai bien vu toute la complexité, et puis surtout ce qui me frappait, c'était le fait qu'il manquait un grand imaginaire qui fait que, déjà on savait tous pourquoi on faisait ça, et là c'était pas clair pour beaucoup de gens, quoi, pourquoi on fait ça. Pour beaucoup c'était parce que c'est un peu la mode du moment de faire de la transition écologique, pour d'autres c'était pour faire de l'argent, et puis pour d'autres, en fait ils avaient pas du tout intérêt à le faire, et on mettait en fait en place des stratégies d'évitement, et en fait, moi, tout ça, ça m'a beaucoup inquiété, en fait, parce que je voyais pas comment, avec aussi peu de commun, on allait arriver à travailler tous ensemble pour résoudre ce défi colossal à l'échelle de l'humanité, mais à l'échelle d'une espèce, ça s'est jamais vu ce qu'on doit faire, ce qu'on doit entreprendre. Et c'est pour ça que je commençais à m'intéresser à la question des récits, en me disant que dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer, et notamment par l'Institut des Futurs Souhaitables où on s'est rencontrés. Moi, j'étais président pendant 5 ans de l'Institut. J'ai vu beaucoup de changemakers dans tous les domaines avec des idées exceptionnelles. Et je me disais, en fait, il y a ces idées exceptionnelles qui ont un plafond de verre. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait le dépasser? Et comment on pourrait mettre ensemble les problèmes et les solutions pour créer un récit crédible d'une transition écologique mondiale qui fonctionne, quoi. Donc, c'est ça ma démarche. En fait, c'est au départ de me rassurer en me disant, il existe une voie. Et un récit, c'est raconter une voix. Et cette voix, si elle est crédible, elle est étayée et elle donne envie. Elle peut donner envie aux gens à la fois de s'engager sur ce chemin, voire de créer d'autres chemins qui mènent là-dessus. Mais moi, c'est vraiment une démarche au départ de mathématicien. C'est-à-dire, il y a un espèce de théorème qui est l'humanité va s'en sortir et va réussir à résoudre cette polycrise. Et je construis un pont, parce que c'est ça une preuve. Et ce pont, plutôt que de le montrer dans un essai, j'avais besoin de montrer les gens qui et les valeurs et de faire ressentir en fait tout ça. Et pour moi, le roman, c'était le meilleur simulateur d'idées, le meilleur laboratoire d'idées.
Bah alors c'était un peu ma deuxième question. Donc là, c'était un petit peu là-dessus. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'étais lancé dans l'écriture d'un essai aussi, qui t'avait poussé à faire beaucoup beaucoup de recherches et à lire énormément d'autres livres. Et on va parler de tout ça. Donc t'as accumulé une masse de connaissances. Mais qu'est-ce qui fait que tu es revenu au roman? Voilà. Et qu'est-ce que tu as mis dedans en fait? Est-ce que tu peux aussi me pitcher un peu la suite? Mais pourquoi le roman?
Ouais. Alors au départ, cette réflexion, elle a démarré pendant le Covid. J'avais quitté mon job pour m'occuper d'une ONG là qui s'appelle One Home et déployer cette ONG dont le but était de faire ressentir à tous l'amour qu'ont vécu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Puis comme tout le monde, j'ai été confiné chez moi, donc j'ai pas pu déployer ce projet dans le monde, mais on l'a quand même lancé. Et du coup, je suis revenu à l'essai au départ en me disant c'est peut-être le moment de se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que tout ça passe pas à l'échelle et qu'est-ce qui fait que tout ça passerait à l'échelle? Et ça m'a amené dans une immense réflexion qui a pris pendant près de 2 ans où j'ai écrit 3 essais que j'ai pas publiés encore mais que je publierai après les romans parce que j'expliquerai pourquoi. Mais dans ces essais, en fait, j'ai essayé de comprendre en dézoomant dans le temps. Le siècle bleu, j'avais plutôt dézoomé dans l'espace en voyant la Terre au milieu du cosmos, en se disant, tiens, on a la chance de vivre dans cette oasis incroyable. Et pour essayer de dénouer la crise entre l'humanité et la biosphère, je me suis dit, je vais faire un pas de recul dans le temps pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et surtout quelle pourrait être la suite logique de ça si je contemplais l'histoire humaine et l'histoire de la biosphère en se disant, quelle pourrait être la suite logique. Et pour comprendre la suite logique, j'essaie de comprendre quelles étaient les forces en présence dans l'univers, qu'est-ce qui faisait qu'il y a des structures, qu'est-ce qui fait qu'il y a des que les choses évoluent, et en me disant que cette crise que l'on vit, c'était pas un mur infranchissable, mais que c'était une étape de métamorphose de l'humanité vers sa suite. Donc ça a amené à faire des recherches sur les théories de l'évolution en général, je dirais en physique, en astrophysique, mais aussi voilà en chimie, en biologie, sur l'émergence de la vie, essayer de comprendre le phénomène humain, non pas comme quelque chose en disant bah tiens il y a des humains et une biosphère, on est issu de la biosphère, on est issu de ça, et d'essayer de trouver une suite logique. Et à un moment, bah, on en parlera plus tard, j'ai trouvé un concept et je me suis dit tiens ce truc là c'est nouveau, c'est génial et c'est tellement fou comme évolution pour l'humanité, que si j'écris un essai là-dessus, on va débattre de ça. Et moi, ce que j'avais envie, c'était justement de donner envie aux gens et de faire un essai qui raconte comment l'humanité peut passer de cette phase-là à la prochaine. Et en fait, ça m'a amené à reformuler la transition écologique comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à la voir comme la transformation du système économique, c'est-à-dire du système énergétique, du système alimentaire, du système de transport, du système d'éducation, du système politique, enfin de toutes les phases, comme quelque chose d'externe, mais de se dire, est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas une métamorphose de l'humanité qui pourrait faciliter ça et rendre ce truc-là irréversible, quoi. Et donc la Révolution bleue, les trois tomes, ça se déroule en 3 ans, il y a à peu près 1 an par tome, et en 3 ans, la promesse du roman, c'est que les héros fassent naître en fait l'humanité, et une humanité qui soit capable justement de s'attaquer à ces problèmes et de confronter ça à toutes les problématiques géopolitiques, les problématiques individuelles qu'on a, tous les freins. Le roman pour ça c'est génial parce que tu peux mettre en scène tout et tu peux arriver à ce qu'on appelle de la vraisemblance pour convaincre les gens que ce truc-là est possible. Donc la Révolution bleue, c'est l'histoire de 4 héros. Il y a un astronaute qui s'appelle Paul Garner qui a ce rêve de la Révolution bleue, qui est voilà le rêve que l'humanité réussit à vivre en symbiose avec la biosphère, mais il dit pas comment, mais il lance le rêve depuis la Lune, et c'est quelque chose que des milliards d'humains ont envie de réaliser. Il y a un autre héros qui s'appelle Abel, qui lui est le meilleur ami de cet astronaute et qui a à charge de transformer en fait cette inspiration en un mouvement. Donc toute la question, c'est comment tu crées un mouvement qui soit irrésistible, une révolution mondiale, mais qui soit pas du tout, on va dire, violente, hein, mais qui soit une révolution qui donne envie, qui embarque tous les créatifs, tous ceux qui prennent soin, tous ceux aussi qui résistent, pour arriver à faire un mouvement inclusif et qui atteigne les 8 milliards d'humains. Il y a sa femme, Lucie, qui est conseillère du président des États-Unis et qui, du coup, s'occupe de la mise en œuvre économique de cette révolution bleue, ce qui pose beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, toutes les mesures, en fait, écologiques sont des mesures qui sont impopulaires. Et puis, il y a une petite fille qu'ils ont adoptée qui s'appelle Jenny, qui est la petite princesse et qui, elle, découvre au fur et à mesure quelle est la clé d'activation de cette suite de l'humanité. Donc, c'est l'histoire de ces 4 personnages et l'histoire du monde pendant 3 tomes et une façon assez originale de reformuler la transition écologique.
Oui, puis ça te permet en fait de tester une hypothèse, c'est ce que tu me disais, c'est-à-dire que tu essaies d'ancrer ça en fait dans le réel et que tu as toi-même pas mal de connaissances sur moi ce que j'appelle le fonctionnement des structures profondes, puisque tu connais pas mal aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les forces de l'ombre avec les mafias, avec les rapports de force, avec le jeu politique, avec voilà tous ces trucs-là. T'essaies d'intégrer ça un maximum là-dedans et t'as un processus d'écriture qui est de tester tout ça entre guillemets. Tu veux faire presque une simulation, c'est ça?
Ouais, c'est ça. L'essai, ça m'a amené le concept et je pense que aujourd'hui on manque de concept. Et quand je dis concept, c'est vraiment au sens d'Aristote, hein, c'est-à-dire quelque chose qui aide une idée à se déployer, quoi, parce qu'un concept c'est autoporteur. Donc la recherche m'a amené ça et puis un certain nombre de connaissances qui étayent le roman. Puis après j'ai toutes mes connaissances, on va dire, sur le fonctionnement du monde que j'ai rajouté. Et c'est ce cocktail là entre l'idée et la réalité du monde et la ténacité de ces personnages et de tous les autres révolutionnaires bleus qui montrent comment par une succession d'essais-erreurs et une succession d'échecs et de succès, on arrive à former un mouvement mondial irrésistible et qui donne envie. Parce que l'idée aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à faire de la transition écologique, qui est censé résoudre la crise la plus grave de l'histoire de l'humanité en le truc le plus ennuyeux, le plus anxiogène. Étatique, le plus économique, le plus anxiogène. Et pour moi, la Révolution bleue, elle doit être une fête, elle doit être quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme. C'est une occasion unique qu'on a de faire ça. Et donc, c'est de changer complètement l'approche, l'énergie avec laquelle on fait cette transition énergétique. Et enfin, transition écologique, parce que l'énergie est qu'une des parties.
On va revenir un peu plus tard sur ce que tu as imaginé, ce que tu proposes dans ton roman, et puis regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi ce qui fonctionne, ce qui peut ne pas fonctionner, quelles seraient les choses justement à débattre, à explorer, puisque le but, c'est d'essayer de faire cette espèce de plan et de voir justement ce qui pourrait marcher. Un peu la question que tout le monde se pose, par quoi ça passe. Je voudrais parler un peu de ta méthode pour poser un diagnostic, parce que ça part de là, c'est-à-dire à quoi on essaie de répondre. Et tu cites souvent Einstein dans tes conférences, notamment cette phrase: si j'avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendait, je passerais les 55 premières minutes à chercher la meilleure question à me poser, et lorsque je l'aurais trouvée, il me suffirait de 5 minutes pour y répondre. Et tu cites aussi Alexander Grothendieck, qui est un des plus grands mathématiciens, si ce n'est le plus grand mathématicien du XXe siècle, je sais que tu aimes bien les maths, et premier écologiste radical, entre guillemets, dont la méthode consistait à dévisser les problèmes, à prendre de la hauteur de vue, et après de revisser, et finalement, quelque part, tout se résout un peu de lui-même. Est-ce que tu peux me parler de ça, de ces inspirations, et de ton approche pour appréhender ce défi planétaire en essayant de prendre la hauteur de vue pour trouver la racine, quoi?
Alors, merci de citer ces deux penseurs ces deux citations, parce qu'elles sont au cœur de ma démarche. Et ça a été très utile pendant le Covid, où le monde était complètement arrêté. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et d'abord sur Einstein, en fait, sur cette citation où il explique que finalement, c'est la manière dont on formule la question donne une grande partie de la réponse. Et aujourd'hui, par exemple, de formuler la transition écologique comme la résolution d'un problème, je me suis dit, peut-être que c'est pas la bonne façon. La vraie façon de faire, il y a peut-être quelque chose de plus puissant, c'est-à-dire de faire confiance aux forces de l'évolution de l'univers. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est naturel, qu'il faut laisser agir, et que ce que l'on voit comme une crise, c'est peut-être la trace de quelque chose de bien plus beau, et on en parlera de cette évolution humaine. Et donc, déjà de se dire, en fait, c'est pas une crise à résoudre, c'est quelque chose à accompagner, mais il fallait chercher le quoi. Qu'est-ce qu'il faut accompagner? Donc ça, c'était de reformuler en ce n'est plus un problème, mais identifier qu'est-ce qui est en jeu dans cette crise des limites planétaires et vers quoi ça peut nous amener. La deuxième chose sur Grothendieck, donc c'était un mathématicien qui était au départ quasi autodidacte parce que ses parents avaient été déportés à Auschwitz. Lui, il n'a pas eu la chance de faire des grandes études. Il a été caché dans différentes maisons. Il a eu son bac un peu de manière limite. Il s'est inscrit en fac à Montpellier où... voilà, il s'est inscrit en maths, mais il aurait pu s'inscrire dans autre chose. Et donc, Grothendieck arrive à Montpellier, il découvre les mathématiques et il se prend une passion pour les mathématiques. Il redémonte une théorie des intégrales. Et il se dit, tiens, j'ai envie de rencontrer les gens qui font vraiment des mathématiques. Et il se rend à Nancy, où était établi Bourbaki, qui était les meilleurs mathématiciens français. C'était un groupe de normaliens et de polytechniciens. Il leur demande s'ils ont des problèmes, ils le prennent un peu de haut, ils lui donnent une liste de problèmes. Il revient quelques mois après avec tous ces problèmes résolus. En fait, c'était tous des problèmes de thèse. Et là, ils se sont rendus compte que ce savant intuitif et quasiment autodidacte était en fait un génie. Ils sont tous mis à son service. Et Grothendieck, c'était un mathématicien qui détestait les problèmes particuliers. C'est-à-dire que quand on lui donnait un théorème à résoudre, il essayait de le généraliser une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, c'est ça le dévissage. Et puis, dans cet espace très abstrait où il avait généralisé le problème, il voyait en fait des structures et des éléments. Il faisait un petit tour de passe-passe et d'un coup, quand il revissait, il démontrait non pas un théorème, mais des milliers à la fois. Et théorie du vissage-dévissage, moi, ça m'a toujours extrêmement impressionné. Et je me disais, finalement, est-ce que pour la problématique écologique, on serait pas dans le même cas? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'épuiserait pas à résoudre des milliers ou des millions de problèmes isolés sans avoir résolu le truc en haut qui fait que tout ça deviendrait simple? Et il y avait une idée au départ pour trouver le concept de cette révolution bleue, d'utiliser un principe de Wu Wei, c'est-à-dire ce principe taoïste qui est d'agir sans forcer, et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit truc à changer qui ferait que tout ce qui est aujourd'hui à contre-courant deviendrait dans le sens du flot, dans le sens des forces de l'univers. Et c'est ça que j'ai recherché en m'inspirant de ça, et je suis parti à la recherche de ce concept qui pourrait rendre la transition écologique irrésistible.
Ok. Bon, on va en parler. Et on peut revenir sur tout ce que tu as essayé de mettre dans le livre, qui a beaucoup de références, et ce que tu as trouvé dans tes recherches, notamment là, en écrivant les essais dont on a parlé. Qu'est-ce que tu dis de cette prise de hauteur, en fait, et des structures fondamentales qui définissent, en fait, ce jeu auquel on prend part, moi, ce que j'appelle le jeu de l'humanité, ou plus largement même le jeu de la vie, et qu'est-ce que tu as trouvé comme étant un peu la racine du problème?
Donc le au départ, en fait, il y a deux protagonistes dans cette histoire, on va dire la biosphère et l'humanité. Et je me suis dit que la crise écologique, on ne la résoudrait pas au niveau des parties, c'est-à-dire au niveau des micro-problèmes qu'ont Total, la ville de Montpellier, les pistes cyclables dans telle ou telle entreprise, mais c'est quelque chose qu'il faudrait résoudre au niveau du tout, c'est-à-dire sur l'interrelation entre le concept d'humanité et le concept de biosphère. Et aujourd'hui, en fait, d'un point de vue philosophique, ce concept d'humanité, c'est des humains qui font un certain nombre de relations économiques, et on essaye de rendre ces relations économiques compatibles avec la biosphère. Le problème, c'est qu'on se heurte, comme tu le disais, à tout un tas de concepts ou de structures, et notamment le capitalisme, ou en tout cas une forme de relations extractives aux ressources naturelles, qui font que, en fait, on change les choses qu'à la surface et on les change pas profondément. Et ce que m'ont amené ces recherches, c'est à m'apercevoir que l'humanité était en fait une évolution naturelle de la biosphère. Au départ, on avait une Terre qui était inerte et la matière a commencé à s'animer pour faire les premières formes de vie, qui étaient monocellulaires, qui sont devenues multicellulaires, qui sont devenues des êtres de plus en plus complexes en taille, en forme, adaptés à de plus en plus d'écosystèmes. Donc la vie c'est vraiment multipliée et développée. Il y a eu l'explosion du Cambrien, où il y a eu vraiment des formes de vie extrêmement variées qui sont apparues partout, dans la mer, après sur Terre, dans les airs, enfin voilà, la vie s'est constituée. Et puis il y a eu un saut quantitatif, c'est que par leurs interrelations, toutes ces créatures ont formé la biosphère, c'est-à-dire une métacréature qui n'est pas juste la somme des parties. C'est pas juste qu'on a des bactéries, des pandas, des vers de terre, des oiseaux, des humains. C'est que tout ça, en fait, ça forme un tout avec les forêts, qui est cette biosphère, qui est un être à part entière. On en parlera. Et dans cette biosphère, qui prend soin en fait de ces créatures, quand l'humanité apparaît. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que l'humanité est un cancer ou une erreur de la biosphère parce que on a tout dévasté. Alors c'est vrai qu'il y a une grande histoire de la destruction, mais il y a aussi une histoire de l'élévation, une histoire de l'union qui fait que l'espèce humaine a fait des grandes choses et pourrait rendre des fonctions à la biosphère. Et l'hypothèse que je formule, c'est que l'humanité, on a un moment où on pourrait faire le même saut qu'entre le monocellulaire et le multicellulaire et former un tout de 8 milliards d'humains. Aujourd'hui, on se considère, notamment dans le monde occidental, comme 8 milliards d'humains séparés, où chacun a sa fonction d'optimisation propre à maximiser. Hein, c'est les bases de la microéconomie moderne. Et dans cette microéconomie, on a donc ce tout qui est un peu informe, qui a pas de direction et qui a la forme en fait d'un cancer. Et l'hypothèse, c'est que si l'humanité devenait en fait un méta-organisme en tant que tel, c'est que ce méta-organisme, il serait pas séparé de la biosphère, mais il serait un organe de la biosphère. Et aujourd'hui, la biosphère a déjà d'autres organes. Enfin, en tout cas, ça, c'est des mots anatomiques humains, mais on pourrait dire que les forêts, les vers de terre, les bactéries rendent un certain nombre de fonctions biochimiques et de fonctions biosphériques qui permettent au tout de se maintenir. Et l'humanité pourrait avoir ça. Et le fait de formuler en fait le projet humain et la transformation écologique en disant que la forme d'atterrissage de ce cancer, ça serait un organe, ça colle avec des observations anatomiques qu'on a vues récemment, où pour la première fois, on a vu justement un organe en création, il y a une multiplication de cellules, et ces cellules, ça ressemble à un cancer. Et donc la question, c'est la forme d'atterrissage de l'humanité, et d'arriver dans une forme qui puisse engager la transition écologique. Et si on formule l'humanité comme une partie de la biosphère, et non pas comme un truc séparé, automatiquement, vous avez l'économie, c'est-à-dire le métabolisme de cette créature, qui doit devenir compatible avec les limites planétaires, et tout un tas de concepts comme l'économie régénérative, l'économie circulaire deviennent évidents, alors qu'aujourd'hui, si on considère l'humanité comme séparée en fait de la biosphère, on arrive à quelque chose où le concept, on n'arrive pas à justifier ces concepts. Il n'y a que un espèce de devoir moral qui nous dit, ok, on va mettre un peu d'économie circulaire parce que cette économie circulaire, c'est un peu mieux. Mais derrière, on change pas notre rapport. Et moi, je pense que c'est vraiment au niveau de notre rapport au monde, c'est-à-dire dans la worldview, qu'il faut arriver à changer des choses entre l'humanité et la biosphère, c'est-à-dire se considérer comme partie intégrante de cette biosphère et comme ayant un rôle, comme en étant voulu et en explicitant quelles sont les fonctions de l'humanité.
Ok. On va revenir un peu là-dessus, mais je voudrais que tu continues à me parler de cette idée que ce sont les worldviews, enfin, donc notre rapport au monde, la manière dont on voit le monde, qui est un des piliers fondamentaux de nos comportements, de nos habitudes et donc de que l'humanité produit, en fait. Et c'est pas nouveau, cette idée. C'est-à-dire qu'il y a même des écoles philosophiques, hein. En philosophie, on va appeler ça aussi l'idéalisme. C'est-à-dire que toutes ces philosophes qui disent que ce sont les idées, en fait, qui font le monde. Les idées qui sont la première matière, et que de ça, tout découle l'histoire humaine. D'autres sont plus matérialistes et vont dire, OK, les idées, c'est pas ça qui fait le monde. Il y a la matière, il y a les rapports de force, il y a, donc, c'est le marxisme, par exemple, et pas un idéalisme. Ça va prendre en compte d'autres choses. Donc toi, ça s'ancre dans cette école des idéalistes, c'est-à-dire que ce sont nos croyances et nos visions du monde qui vont décider de nos comportements et donc des structures qu'on va créer, et que après ce sont les structures qui font l'histoire, etc. Mais voilà, comment est-ce que t'en es arrivé à cette conviction, et qu'est-ce que tu opposes justement à ceux qui vont dire, bah voilà, en fait il y a pas que les idées, quoi.
Ouais, alors moi je pense que déjà il y a les deux, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez mis d'idéalisme ou justement de réflexion sur les worldviews dans l'écologie. Alors, le point de départ, c'est des cartes sur la conscience, sur le fonctionnement de la conscience. Il y a plein de cartes qui sont possibles, et aujourd'hui c'est difficile de savoir exactement comment fonctionne la psyché, mais il y a une carte simple qui dit que nos habitudes, qui sont ce que l'on essaye de changer aujourd'hui par les incitations écologiques, sont en fait gouvernés par des systèmes de croyances qui eux-mêmes sont gouvernés par des worldviews. Et dans cette hiérarchie, si on essaye que de changer les habitudes les unes aux autres, on fait ce que Grothendieck détestait, c'est-à-dire résoudre des millions et des millions de problèmes séparés, et on n'y arrive pas parce que on va interdire une molécule, et puis on va inventer une autre, il faudra 5 ans pour interdire cette molécule qui est légèrement différente. On joue un espèce de jeu de chat et la souris, on n'y arrive pas. Et changer les systèmes de croyances, c'est plus difficile. Et les worldviews, c'est peut-être plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, les worldviews qui sont vraiment les couches basses du logiciel qui s'allument quand on se réveille le matin, ces worldviews-là, elles ont un fondement archaïque, et ce fondement archaïque, il nous dit comment on se situe par rapport au monde. Et il est aussi lié à notre éducation et à notre époque. Et pour un occidental, on va dire, qui sont ceux qui causent une grande partie des problèmes écologiques, quand on se réveille le matin, on est essentiellement dans notre tête, on a l'impression de vivre dans un monde qui est inerte, dans un monde qui est séparé, dans un monde qui n'est pas et qui est infini, alors que la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui est vivant, dans un monde qui est interconnecté et dans un monde qui est fini. Pour changer en fait ces worldviews, il y a différents stratagèmes qui sont mis en place dans le bouquin pour faire à la fois naître le concept qu'on vit à l'intérieur d'une terre vivante, et ça va pas du tout de soi, mais c'est quelque chose que les peuples premiers ont compris. Mais nous, on est tellement dans l'illusion qu'on vit dans un jeu vidéo et que tout ça c'est un décor et que le monde ne réagit pas. Donc déjà, ça c'est la première chose de faire naître le sentiment d'appartenance à bien plus grand que soi. Et puis après, il y a ce sentiment d'appartenance à l'humanité, et le fait de voir des révolutionnaires dans la Révolution bleue qui petit à petit changent leur vision du monde et du coup adoptent un rapport extrêmement fluide avec la transition écologique, ça donne envie de le faire à très grande échelle. Donc c'est sur ça que moi j'ai voulu travailler. Et évidemment, il se heurte aux structures existantes qui, elles, sont matérielles, qui ne sont pas que des idées. Et donc le roman, c'est vraiment la confrontation entre, je dirais, l'idéalisme et le matérialisme, quoi. C'est ça que ça permet ça. C'est qu'il y a des gens qui leur disent, mais attendez, un, j'y crois pas à votre truc que la Terre est vivante. Deux, moi j'ai mes intérêts, donc je vais tout faire pour vous opposer. Et en fait, dans le roman, c'est vraiment la Terre et le fait que les problèmes écologiques deviennent de plus en plus graves, des problèmes de température, des problèmes d'eau, des problèmes de phénomènes un peu cataclysmiques, qui fait qu'à un moment, tous se disent, ils commencent à avoir peur et à se dire, bah finalement, on est dans une situation où l'argumentation de « je te crois pas », elle suffit pas parce qu'on voit une accélération des problèmes. Donc, je dirais que ce débat entre idéaliste et matérialiste, s'il n'y avait pas des limites planétaires qui devenaient présentes et prégnantes, en fait, ce débat, il resterait un débat d'idées. Et là, ça devient une nécessité. Et ils se rendent compte que d'adopter ce changement de croyance permet d'accélérer un certain nombre de choses. Alors évidemment, au long des trois tomes, il y a toujours des résistances. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'au bout comment on peut amener une idée, finalement, à être adoptée par 8 milliards de personnes.
Ouais, et puis on va développer aussi là-dessus. Je voudrais qu'on reste un peu sur ce qu'on va appeler l'hypothèse Gaïa, que tu décris là, hein, c'est-à-dire ce concept que d'une terre vivante et surtout d'un ensemble, de l'ensemble du vivant qui formerait comme une espèce d'unique organisme qui se comporterait comme un seul être vivant, en fait, et qui est un peu au cœur de ta démarche et au cœur de ton de ce roman et des romans précédents. Puisqu'en fait, tout ce que tu décris s'appuie sur tout un corpus d'idées qui remontent, qui ont des origines, et notamment donc cette hypothèse Gaïa qui a été après fondamentale, notamment enfin un des piliers des modèles interdisciplinaires écologiques depuis 2001 avec Earth System Science, et qui a contribué à faire se diffuser ce qu'on va appeler la pensée systémique, en fait, voilà, des interactions. Donc il y a beaucoup de débats autour de ça, mais donc qui remonte à James Lovelock dans les années 70. Et avant lui, il y a été aussi s'inspirer de d'autres penseurs qui, plus ou moins spirituels, mais se disaient qu'il y avait quand même des liens entre les choses et qu'on pouvait imaginer que tout ça formait un grand tout. Donc c'est une hypothèse scientifique parce que ce sont des scientifiques qui l'ont posée, qui a été beaucoup discutée, qui s'est transformée aussi dans quelque chose qui est beaucoup moins scientifique et qui touche la spiritualité. Mais voilà. Je voudrais que tu me parles un petit peu de ta compréhension de cette hypothèse-là et pourquoi tu la considères comme viable.
Alors moi, j'ai lu ce livre, l'hypothèse Gaïa, à 17 ans. C'est le plus grand géologue français, la René Dars, qui me l'a fait lire, qui était un peu mon mentor, qui était le directeur, qui était le doyen de la fac de sciences de Nice, donc qui était un très grand scientifique, et qui m'avait dit « ce truc-là est révolutionnaire ». Et quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est une révolution. Et moi j'ai dû lire ça en 93, donc 20 ans après que le livre soit paru, ça avait dû paraître au milieu des années 70. Et Lovelock, effectivement, au départ dans ce livre qui était pas du tout un bouquin de New Age, les suivants sont devenus très New Age, mais qui était au départ une réflexion sur lui travaillait pour la NASA, il était chimiste, et il se disait comment on peut faire pour découvrir qu'il y a des formes de vie sur d'autres planètes. Et c'est là où il s'est aperçu que la composition de l'atmosphère était instable et que la seule raison pour laquelle cette composition instable était maintenue, c'était qu'il y avait des formes de vie qui l'alimentaient. Et il s'est dit, pour trouver de la vie sur d'autres planètes, en fait, il faut pas chercher de la vie, il faut chercher des compositions chimiques instables, parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est en dessous, qui l'auto-entretient. Et ça l'a amené à formuler quelque chose d'encore supérieur, qui est que on n'est pas dans une planète qui est habitable, mais c'est que au fur et à mesure, la vie a créé cette espèce de méta-organisme un peu en émergence qui prend soin des autres parties de manière à rendre habitable et stable les conditions de vie. Et il développe en fait cette idée que cette méta-créature, un peu comme nous, on est une émergence autour de nos cellules, on n'est pas juste 30 milliards de cellules posées sur une table, tout ça, ça forme un tout. Ce tout, peut-être que chacune des cellules n'est pas bien consciente que ce tout existe, mais ce tout, il a une une forme de d'auto-organisation. Et l'hypothèse de Lovelock, c'est que on habite à l'intérieur d'une gigantesque créature qui évolue depuis des milliards d'années et dont nous on n'est que un des éléments. Et quand moi j'ai vu ça, évidemment, je me dis tiens, c'est bizarre quoi, on la voit pas cette créature. Et dans le livre, dans le roman, je dis que c'est normal qu'on la voit pas, c'est un peu comme si on était des cellules de notre corps et qu'on nous disait que j'appartiens à Jean-Pierre Gou qui est en train d'avoir une conversation avec Julien Dvorak sur l'avenir de l'humanité. Ces cellules auraient du mal à le comprendre parce que c'est des choses qui sont dans des échelles complètement différentes. Mais il y a un certain nombre de chercheurs, et notamment les chercheurs du projet Biosphère 2 et John Allen, dont moi je suis proche, et qui était un projet qui m'avait beaucoup plu quand j'avais 13 ans et qui est au cœur en fait de Révolution Bleue, où ils ont développé ce qu'ils appellent la science biosphérique, qui est vraiment la science, alors c'est très lié à la science des systèmes, mais ça va un peu plus loin, qui est la science de la compréhension de l'organisme Gaïa, quoi. C'est-à-dire, allons chercher des preuves de son existence, de la même manière que nous, si on était un groupe de cellules, on se disait, mais t'es sûr que le sang, il arrive pas de quelque part? Où est produit le sang? Viens, on va monter une expédition pour remonter vers le cœur et essayer de comprendre cet organisme. Et aujourd'hui, en fait, depuis les travaux de Lovelock, qui ont été assez dévoyés et critiqués par un certain nombre de gens parce que c'était à une époque très hippie et donc ça a été repris par des hippies. Et donc assez vite, lui en plus, il s'était mis en marge des institutions scientifiques et ça fait partie de ces chercheurs autonomes. Donc ça a été ostracisé. Mais aujourd'hui, ça revient en fait, ces questions-là, notamment parce qu'on a des problèmes de limites planétaires et que ces limites planétaires sont pas juste des limites qu'on aurait franchies dans une feuille Excel, mais c'est des paramètres vitaux d'un système qu'on a dévoyé. Et en fait, ce serait des maladies de la biosphère. Et pour moi, c'est vraiment une incitation aujourd'hui faite à la science d'essayer de partir à la rencontre de cette créature pour comprendre son fonctionnement. Et c'est un fonctionnement qui est ultra complexe. Et c'est comme si nous, on était des petites cellules de notre foie qui partions à la compréhension de ça. Donc, dans le roman, ils partent à ça. Et puis, il y a aussi toute une réflexion, alors ça, le roman le permet, qui est d'organiser la rencontre entre l'humanité et la Terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à lui parler? Et ça se passe par des choses qui sont plus oniriques, plus spirituelles, mais parce que on pourra prouver des choses, mais il y a des choses qui passeront par la croyance. Donc, dans le bouquin, j'y vais par les deux voies, la voie scientifique et la voie de la croyance. Et moi-même, aujourd'hui, je suis pas complètement convaincu de cette hypothèse Gaïa, parce que je suis un scientifique. Il y a un certain nombre de preuves et de choses qui sont étonnantes sur la distribution de l'eau, la distribution des CHNOPS, donc tous les cycles géochimiques dont on a besoin, comme s'il y a quelque chose qui a organisé le fait que toutes ces molécules-là soient équiréparties partout dans le globe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Puis vous avez des choses qui montrent que tout ça, ça maintient la Terre en homéostasie. Il y a un certain nombre de personnes comme Sarah Walker, qui est une astrobiologiste extraordinaire, qui a même écrit un papier que la Terre pourrait être intelligente, c'est-à-dire qu'elle a vu des niveaux d'information, de structures d'information qui montreraient que tout ça pourrait avoir une intelligence, mais tout ça, ça nous dépasse. Mais comme là, dans les années à venir, on n'a pas le temps, on va dire, de la preuve totale, dans le roman, ils y vont aussi par la croyance. Et cette croyance, moi, je suis pas du tout à quelqu'un qui base les choses sur la croyance, mais elle est utile parce que le fait de regarder le monde comme quelque chose de vivant et qui interagit avec nous, en fait, ça change tout, quoi. Et de ramener les gens à ce côté sensoriel, sortir de notre cerveau, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème de l'humanité, c'est que on considère que le monde est une feuille Excel et c'est pas une feuille Excel.
Ok, donc c'est intéressant parce que je me posais vraiment la question de savoir, parce que dans le roman, il y a tout un côté qui correspond au mouvement d'éco-spiritualité avec des références, enfin il y a presque tous les mots-clés en fait, les rêves, les synchronicités, les animaux totems, les voix guides, il y a des références à Jung, à Teilhard de Chardin, qui est un vrai mouvement aujourd'hui qui est très important dans les milieux écologiques, où ça se confond justement avec tout un truc New Age, avec tout ce truc-là. Et dans le roman aussi, tu donnes une... C'est-à-dire, tu vas au-delà de l'hypothèse Gaïa, enfin, tu sais, une des dérivées de l'hypothèse Gaïa, qui est qu'il y aurait une forme d'une personnalité, quelque part, une intention presque. Ouais. Et que la Terre, donc je me demandais si c'était quelque chose dans lequel tu croyais, ou alors si tu voyais ça comme une manière de formuler les choses utiles, parce que tu te dis que, en fait, la plupart des gens ont besoin d'avoir une forme de croyance.
Alors, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les croyances et sur qu'est-ce qui fait changer les gens. Et tu te rends compte que aujourd'hui, un concept qui est associé à de la magie, les gens vont plus y croire qu'un concept qui est pas associé à de la magie. Alors, tu peux appeler ça de la magie ou tu peux appeler ça de la du pétillement, quoi. Donc, de rendre un concept sexy. Mais il y a quelque chose qui va plus loin que ça, de ramener les gens à une forme de transcendance qui fait que les consciences s'élèvent et que les consciences s'alignent et que les gens s'unissent pour aller vers un même but. Et aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut, tu vois, de l'humanité. Et moi, je l'ai trouvé là-dedans, tu vois, ce sursaut-là. Alors, quand tu dis que c'est un mouvement dans l'écologie, c'est très, 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 très peu de gens hein, aujourd'hui. Hein, qui donc, c'est même pas un mouvement. Je veux dire, aujourd'hui, très peu de gens dans l'écologie te parlent de l'hypothèse Gaïa, que la Terre est un être vivant. Mais ça rend l'histoire beaucoup plus belle, en fait, quoi, d'une certaine façon. Et le fait de se dire qu'on est à l'intérieur de ça, qu'on pourrait être un organe de ça, et qu'on pourrait être amené à préciser quelles sont les fonctions de l'humanité, on rentre dans quelque chose où la transition écologique devient quelque chose d'extraordinaire auquel on a envie de participer et nous donne envie d'aller. Et en même temps, il faudra faire des études pour savoir justement quelle est cette créature, est-ce qu'il y a une intention, est-ce que voilà. Mais moi, je pense que ça, c'est vraiment de nature à complètement repoétiser et repolitiser l'action écologique.
Non, mais on pourra développer là-dessus, mais comme tu sais, moi, je suis pas vraiment sur ces, sur ces trucs-là, et ça me questionne pas mal. Je vois bien comment les gens fonctionnent, et il y a beaucoup de gens dans le monde, hein, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, pour qui c'est central, hein, pour qui, une forme d'intelligence supérieure en fait est centrale dans la manière dont ils définissent le monde et dont ils finissent leur vie, ce qui passe sans poser aussi pas mal de problèmes, hein, on le voit. Je voudrais rester toi sur ton imaginaire. Est-ce que tu utilises aussi comme pilier pour faire rêver? Il y a notamment deux choses qui reviennent. C'est le travail de Saint-Exupéry, notamment Le Petit Prince, et Yves Klein. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as trouvé toi pour t'inspirer et pourquoi tu décides d'en faire de faire rejoindre ces deux piliers-là, d'en faire en tout en fait.
Alors déjà, on va commencer par Yves Klein. Le concept de Révolution bleue, c'est un concept qui a été introduit par ce peintre, qui est un peintre niçois. Moi, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, quand ils ont ouvert le musée d'art contemporain de Nice. Et Yves Klein peignait des monochromes bleus. Et j'ai été ébloui, on va dire, par le bleu d'Yves Klein, en me disant, mais ce bleu est complètement surnaturel et une porte vers autre chose. Et j'ai été fasciné par ce bleu et j'ai découvert qu'Yves Klein, avant de mourir, parce qu'il est mort jeune, à 34 ans, il avait un rêve qui s'appelait la Révolution bleue, qui était de peindre le monde de ce pigment. Et je trouvais que cette idée était magnifique parce que j'adorais ce pigment-là et c'était la même couleur que le ciel bleu de Nice sous lequel moi j'ai grandi. Et je me disais, j'aimerais bien prolonger ce rêve, mais derrière ce rêve, il y a certainement quelque chose. Et dans la Révolution bleue, l'idée, c'est de teinter de bleu le cœur de chaque humain et que la révolution se développe par justement ce bleu qui vient dans le cœur et dans les rêves de chaque humain. Et que ce rêve bleu d'Yves Klein, en fait, c'est le rêve de la Terre qui vient, illuminer ou guider ou émerveiller les humains et de se reconnecter à ça. C'est-à-dire que si nous, on est des cellules de l'humanité qui elle-même est un organe de la biosphère, nos rêves sont connectés à tout ça. Donc ça, le roman permet ça parce que ça, c'est pas des choses que j'écrirais dans un essai, mais ça permet de ramener de la beauté, ça permet de ramener par ce bleu quelque chose d'extrêmement fédérateur et une sorte de tonalité qui fait que l'humanité peu à peu se met à l'unisson pour arriver à travailler sur cette transition écologique en s'alignant sur une sorte de tonalité de la Terre, ce bleu qui est vraiment le bleu de la Terre depuis l'espace, mais qui pourrait être aussi une couleur qui nous élève. Et l'autre élément, c'est Saint-Exupéry. Moi, j'ai toujours été un grand fan de Saint-Exupéry du point de vue des valeurs qu'il développait, alors dans Le Petit Prince, mais aussi dans ses autres livres, des valeurs de responsabilité, des valeurs de camaraderie, des valeurs de dépassement, des valeurs de courage, des valeurs d'humanisme. Et Saint-Exupéry, il avait déjà, un peu comme les astronautes, du recul, parce que quand il était en avion, il prenait du recul sur le phénomène humain et il comprenait des choses, parce que quand on prend du recul, comme le faisait Crotenty, comme moi j'essaye de le faire, on voit les problèmes de manière un peu plus floue ou de manière un peu plus générale et on voit des grandes tendances. Et Saint-Exupéry était quelqu'un qui analysait le phénomène humain comme Teilhard de Chardin et d'autres. Et quand je réfléchissais à cette évolution de l'humanité qui pourrait devenir un organe, c'est-à-dire une humanité qui au départ est de 8 milliards d'humains séparés pour aller vers une humanité qui soit une sorte de méta-organisme de 8 milliards d'humains, chercher une forme qui soit douce et qui soit universelle et qui soit laïque et qui puisse plaire à tout. Et en fait, j'ai trouvé cette forme sur la couverture du Petit Prince parce que le Petit Prince, c'est un gigantesque humain posé sur une planète minuscule. Et moi, j'ai toujours été frappé de la taille du Petit Prince par rapport à sa planète. Et puis, ça me rappelait un calcul scientifique où j'avais vu, par exemple, que si on fait des modélisations de gravité, tu peux pas avoir un arbre de plus de 134 mètres. C'est pas possible matériellement. Et donc, une créature, c'est pareil, tu peux pas avoir une gigantesque créature qui existe sur Terre. Donc, je comprenais pas ça. Et je me suis dit, finalement, le Petit Prince, c'est peut-être un collectif humain planétaire qui a réussi sa transition, qui a pris conscience de lui-même et qui vient vers nous pour nous apporter un message. Et l'humanité, si tu mets tous les humains sur les épaules des uns des autres, tu aboutis à une créature qui fait 287 millions de tonnes. Si on en faisait une boulette de viande, cette boulette de viande, elle ferait 1 kilomètre de diamètre, donc elle est toute petite, elle tendrait dans Central Park ou une montagne de 3 kilomètres. Mais on est un peu comme le Petit Prince sur une petite planète. Et si on y rajoute tous les objets, on est aussi gigantesque que le Petit Prince sur cette planète parce que on a montré que la somme de tous les objets était aussi grande que la biosphère. Et je me suis dit, quand tu lis Le Petit Prince, avant d'arriver sur Terre, il va sur 6 planètes, où sur chacune des planètes, il voit toujours un gigantesque humain sur une petite planète, et c'est toujours des humains qui sont malades. Vous avez un roi, un vaniteux, un buveur, un allumeur de réverbère qui sait pas trop ce qu'il fait, un businessman qui fait que compter. Et en fait, ces maladies qu'il dépeint, qui sont des maladies du tout, sont des maladies qu'a l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'humanité se pose toutes ces questions, comme si dans l'univers, il existait d'autres espèces qui en étaient au même stade que nous, c'est-à-dire d'arriver à former un tout, mais que ce tout, il avait pas pris conscience de lui-même et d'élaborer son projet. Alors que le Petit Prince, lui, a pleinement pris conscience qu'il vivait sur une planète, une petite planète, qu'il fallait l'entretenir, en prendre soin, etc. Et quand on lit le Petit Prince sous cet angle-là, il prend une toute autre dimension, parce que les conseils qu'il nous donne, que la plupart des gens apprécient, sont des conseils pour se relier différemment les uns les autres et arriver à former un tout qui soit en osmose avec la biosphère. Notamment la métaphore des baobabs, enfin, est très intéressante. Et donc, dans le livre, le Petit Prince, c'est l'attracteur vers lequel va l'humanité et ils essayent de guider l'humanité pour devenir un petit prince. Et c'est pour ça que le livre s'appelle La Petite Princesse. Et l'anecdote qui est assez incroyable, c'est que quand j'ai fini d'écrire ce livre, j'ai découvert une lettre qui venait d'être publiée pour la première fois en 2022 entre Saint-Exupéry et sa femme Consuelo, dans laquelle il lui promettait d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. Alors, du coup, j'ai changé un peu le scénario du bouquin où la petite fille dans le livre va chercher ce manuscrit qui existe peut-être parce que Saint-Exupéry l'a promis à sa femme 6 mois avant sa mort. Donc, il existe peut-être quelque part ou en tout cas dans le monde des idées. Elle va rechercher dans ce manuscrit le secret pour activer cette évolution multicellulaire de l'humanité qui rendrait la transition écologique plus facile. Et quand les héritiers de Saint-Exupéry ont entendu parler de ce livre, ils ont adoré, et Olivier Daguet, qui est le détenteur des droits du Petit Prince, qui est le petit-neveu de Saint-Exupéry, qui est à la tête de la Fondation Saint-Exupéry, c'est lui qui a écrit la préface du livre, et ils ont mis le Petit Prince au service de la Révolution Bleue. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que je parlais de la magie, et pour moi, la magie, elle est là aussi. C'est-à-dire que le Petit Prince, il a quelque chose de magique et d'universel. Et le fait de rajouter un symbole doux et qui est partagé, en tout cas par une grande partie des gens et par quelle que soit leur religion, ça peut nous accompagner dans ce mouvement d'union et ce mouvement de résolution des limites planétaires.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à cliquer sur l'épisode numéro 2.